prix ou jouets sélectionnés de même marque. Dépêchez-vous, ces offres se terminent le 30 novembre. Certaines conditions s'appliquent, détails en magasin ou au Mondo.com.
La promotion la plus attendue est de retour chez Lunetterie Bellan. Tout le mois de novembre, achetez une paire de lunettes avec verre progressif et recevez la deuxième paire de verre gratuitement. Économisez jusqu'à 420 $. Lunetterie Bellan, service qualité bas prix.
Visitez Pharmaprix maintenant et jusqu'au vendredi 28 novembre pour le super sol du Vendredi fou. Profitez de grosses économies partout en magasin. Économisez gros, partez content.
Floralie Jouvence, c'est le plus beau magasin de Noël à Québec et Lévis. Épatez vos convives avec la plus belle variété de décorations au style unique et le plus grand éventail de sapins naturels et artificiels. Ouvert les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Hey Simon, Luc est tombé de l'échafaudage. Viens, j'ai besoin d'aide.
C'est parce que je suis vraiment dans le jus.
Il y a du sang partout, vite!
Écoute, je le connais bien cet échafaudage-là, puis c'est pas son genre de blesser le monde. Faudrait peut-être que Luc arrête de dramatiser.
Ben là, faut faire quelque chose.
Bah, j'aime mieux pas m'en mêler. C'est pas vraiment de mes affaires.
Si on réagissait face aux blessures physiques comme on le fait trop souvent face aux blessures psychologiques, on verrait à quel point c'est absurde. Ensemble, agissons pour que nos milieux de travail soient sains pour tous. Un message de la CNESST.
Ce samedi 22 novembre, c'est le match Maxi au Centre Vidéotron. Dès 16h, soyez de la partie alors que vos remparts affronteront le Régiment de Terre-Neuve. Un premier duel entre les deux équipes à ne pas manquer. Réservez vos billets maintenant au rempart.ca.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeux de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Ta machine date de l'époque des Nordiques? C'est peut-être le temps de la changer. Chez Machinerie Aventis, on a des vrais rabais sur plus de 100 machines usagées avec des réductions allant jusqu'à 35 000 $. Que tu cherches un tracteur, un chargeur ou un équipement pour le champ, on a ce qu'il te faut. Fiable, performant et prêt à travailler. Viens voir notre inventaire complet sur Facebook à Machinerie Aventis Usagée. Machinerie Aventis, des machines prêtes à performer, saison après saison.
Les 28 et 29 novembre, c'est le Vendredi fou chez les Foyers Dombard. Pendant deux jours seulement, profitez de rabais exceptionnels sur les marques Valcourt au gaz, Enerzone, Ventis et plus encore. Bénéficiez d'offres allant jusqu'à 70 % de rabais. Besoin de foyer ou de poêle à bois? Venez nous voir, on a tout ce qu'il vous faut au meilleur prix. Les 28 et 29 novembre, c'est le moment où les prix sont au plus bas. Ça vaut le détour. Les Foyers Dombard, rendez-vous au 741 Saint-Vallier-Ouest.
À Québec!
Le Vendredi fou est arrivé chez Desjardins Auto Collection pour tout le mois de novembre. Achetez la Ford Escape PHEV et recevez des pneus d'hiver. Et ce n'est pas tout. Achetez la Mach-E ou Lightning et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2 500. Parce que le Vendredi fou, c'est encore mieux quand ça dure tout le mois. Certaines conditions s'appliquent. Passez-nous voir dès maintenant.
Un Ford, ça se
Envie de chaleur cet hiver? La Cour arrière de Québec t'attend au Grand Marché. Menu d'inspiration mexicaine, cocktails, bière de micro, musique live et événements thématiques. Viens manger, prendre un verre ou réserve ton party de Noël. La Cour arrière de Québec au Grand Marché, ouverte à l'année.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix.
Choix.
Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
To start with, I'd like to address the rumors right at the beginning. I think it's important that we talk about that. This object is a comet. It looks and behaves like a comet. And has, and all evidence points to it being a comet. But this one came from outside the solar system, which makes it fascinating, exciting, and scientifically very important. And a little bit more about the rumors. I think it's very important, and I'm actually very excited that a lot of the world was speculating about the comet while NASA was in a period where we couldn't speak about it due to the recent government shutdown. There was a lot of speculation about what it could be, but what I think is really awesome is that folks were interested in this incredible finding that we observed. We want very much to find signs of life in the universe. In fact, just a few months ago, we were with you and we talked about what we think might be the signal from ancient life on the surface of Mars, from our amazing machines that have been roving the planet for 30 years to look for those things. That that is something that's really important for us to learn about and discover. It could be an amazing discovery if and when we can confirm that. But 3i Atlas is a comet.
Bienvenue dans les Radio X-Files en ce vendredi soir. Ce que vous venez d'entendre, eh bien, c'était un résumé de ce qui est en fait 3i Atlas. C'est la NASA qui faisait un point de presse. Et pour en parler, votre hôte des Radio X-Files, Christian Page.
Bonsoir, Nick.
Comment ça va?
Ça va bien.
Oui.
Oui, effectivement. Je ne sais pas si tu as suivi ça. C'était mercredi après-midi, oui. 15h. Donc, la NASA, sur son site web, a fait une espèce de point de presse pour parler de 3i Atlas. Ce qu'on vient d'entendre, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de Shakespeare,
il disait qu'il faut se préparer une attaque, c'est ça?
Ouais, c'est non. Donc, ce qu'il disait, il dit, bon, 3i Atlas, il dit, répondons immédiatement à cette espèce de rumeur, 3i Atlas est une comète. Il a de l'air d'une comète, il se comporte comme une comète, il bouge comme une comète, et bon, comme disait mon grand-père, quand ça cancane comme un canard, que ça marche comme un canard, que ça a de l'air d'un canard, c'est probablement un canard. Donc, c'est un peu ce qu'il résumait. Il disait, bon, évidemment, on a découvert le sujet a suscité énormément d'intérêt auprès du public. On est content que le sujet intéresse les gens à l'astronomie, tout ça. Et puis, on comprend également que les gens soient fascinés par la possibilité de vie extraterrestre. Et eux-mêmes, d'ailleurs, il dit, on n'a pas pu vraiment commenter ces derniers jours parce que on sait que le gouvernement américain a été paralysé pendant presque 6 semaines. Mais il dit, bon, on pouvait pas commenter, mais bon, on a suivi un peu les débats. Et puis, c'est vrai que la vie extraterrestre, c'est quelque chose de fascinant. Il rappelle que lui, eux-mêmes, la NASA, à quelques reprises, ils ont tenu des points de presse pour parler de découvertes qui ont été faites notamment dans des sédiments martiens où on a cru, à un moment donné, découvrir peut-être des formes, en tout cas des briques qui semblaient suggérer que des formes de micro-organismes auraient pu se développer autrefois sur Mars. Il dit, je comprends qu'on est fasciné par ça, puis nous-mêmes, la NASA, on est fasciné par ça. Mais malheureusement, 3i Atlas n'est rien de plus qu'une comète. Merci.
Bon, beaucoup de gens vont être déçus. Ouais.
Oui, et pourquoi? Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il y a plusieurs éléments ici. On pourrait faire une soirée complète uniquement pour parler de ça, puis j'ai pas l'intention de le faire, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est fascinant. Et il y a plusieurs éléments ici à la fois d'ordre astronomique, mais également d'ordre sociologique par rapport à cette histoire-là. Bon, d'abord, pourquoi est-ce que la NASA décide de faire un point de presse de cette manière-là pour parler de 3i Atlas? Ben, il faut quand même le dire. Le sujet, je résume un peu les faits pour que les gens comprennent l'aspect du débat, hein. 3i Atlas est un objet qui est arrivé dans notre système solaire en juillet dernier. En fait, on l'a observé pour la première fois en juillet dernier. C'est un objet qui vient d'un autre système solaire, d'où son nom un peu étrange, 3i Atlas, 3i pour troisième objet interstellaire, Atlas du nom du système d'observation qui a permis de révéler sa présence. Et on dit troisième parce que le premier à être observé, c'était en 2017. C'était un astéroïde qu'on avait baptisé Oumuamua, hein, un mot hawaïen, parce que ce sont des astronomes dans un observatoire en Hawaï qui l'ont observé les premiers. Donc, un nom hawaïen qui voulait dire le visiteur. Et puis en 2019, on a eu une autre comète qu'on a appelée 2I Borisov, deuxième objet interstellaire Borisov. Et le troisième, ben, c'est 3I Atlas. Et pourquoi toute cette controverse? Ben parce que dès les premières observations en juillet dernier, il y a un astronome, professeur de sciences et responsable du département d'astrophysique de l'Université Harvard, Avi Leib, qui, en observant les comportements de cette comète, hein, qu'à ce moment-là, on ignorait c'est une comète, vous savez que c'est un objet qui venait d'un autre système solaire, oui. Il a commencé à dire, ben voilà, ses comportements sont étranges, très singuliers, et à mon avis, il ne peut s'agir à ce moment-là que d'une manœuvre intelligente, donc 3i Atlas ne peut être qu'une technosignature, en d'autres mots, 3i Atlas est un vaisseau spatial extraterrestre. Et bon, évidemment, lorsque Avi Leib sort ça, tu comprends, cet été, ça fait sourire un peu les astronomes, les astrophysiciens à travers le monde. Mais l'information est relayée rapidement à travers le milieu des gens qui s'intéressent aux extraterrestres, aux ovnis, tout ça. C'est un discours un peu fantastique. Et Evilev va en rajouter une couche, hein, annonçant pour la fin du mois d'octobre une invasion extraterrestre. Hein. On en a parlé ensemble de cette histoire-là.
Oui.
Et puis, bon, ben évidemment, ce qui est intéressant de retenir ici, on dirait que là, toute cette espèce de brouhaha, on oublie. Et je sais pas, c'est, tu sais, au Québec, on dit, notre devise, c'est je me souviens. Mais moi, je peux te dire que dans l'univers du paranormal, c'est moi, j'oublie. Et dans l'univers du paranormal, c'est étonnant de voir comment les gens oublient. Hein, des histoires qui ont été expliquées, des phénomènes qui ont été identifiés il y a 4 ou 5 ans. Hop, tout d'un coup, après une période d'oubli, hop, cette histoire-là revient à la une. Et là, tout le monde se met à s'exciter en oubliant que la même histoire, il y a 4 ou 5 ans, avait été expliqué, puis tout ça. Et c'est continuellement, là, c'est toujours un peu cette espèce de retour à la case départ. Et dans le cas d'Evilev, les gens semblent avoir oublié que Evilev a tenu exactement le même discours en 2017. Là, c'est vraiment une prise d'eux, là. En 2017, quand il y avait eu le premier objet interstellaire, Oumuamua, Evilev était sorti dans les médias en disant c'est un vaisseau spatial extraterrestre, c'est une sonde qui est envoyée par une ancienne civilisation pour nous observer. Il est allé tellement à fond de train dans cette histoire-là qu'il a même publié un ouvrage qui s'intitule Première preuve de vie intelligente extraterrestre. Tu peux pas faire plus clair, là. Avec un titre comme ça, là, y a pas d'ambiguïté, là. Et évidemment, ce fameux rocher Oumuamua est venu, est passé et est reparti. Et ce n'était rien de plus qu'un astéroïde. Bon, mais encore une fois, on a une espèce de période de latente. On dirait que tout le monde semble avoir oublié que Evilev, c'est un peu le garçon qui crie au loup. Et tout à coup arrive Troy Atlas et il nous resserre, c'est prise 2, il nous ressort exactement le même discours. Et là, bon, évidemment, dans tout ce brouhaha, et la dernière fois qu'on en avait parlé ensemble, je t'avais notamment mentionné que Troy Atlas était passé près de Mars.
Oui.
Et il y avait sur Mars, il y a un petit robot qui est là. En fait, il y en a plusieurs, mais il y en a un, Perseverance, qui dans la journée du 3 octobre, a pris une image du ciel de Mars. Et dans le ciel de Mars, on voyait une espèce de traînée lumineuse et qui n'a pas l'air du tout d'une comète. Là. Une comète, hein, on s'imagine, même si les gens ont pas vu les dernières photos de Troy Atlas, une comète, on imagine une boule de feu avec une traînée derrière. Donc l'image qui a été prise par Perseverance ne montrait pas ce type de phénomène. On voyait plutôt une espèce de cylindre de lumière. Évidemment, les amateurs d'OVNI ont dit « Ah, ben voilà, Perseverance prend une photo de Troy Atlas et on voit bien que c'est pas une comète, c'est sûrement un vaisseau spatial extraterrestre. » Tu comprends que ceux qui entretiennent ce discours-là, ce sont les mêmes qui adhèrent à l'explication des Evilev, hein, qui sont persuadés que Troy Atlas est un vaisseau extraterrestre. Oui. Mais crois-le ou non, et c'est ce qui m'étonne un peu, je sais pas, j'ai l'impression que, est-ce que je suis déconnecté? Des fois, j'ai de la difficulté un peu à suivre. Bref, alors qu'on a, j'allais dire 99 % des astrophysiciens et des astronomes, mais ce n'est pas vrai, c'est pas 99 %, c'est en fait 100 % des astrophysiciens et des astronomes, sauf un, disons ça comme ça. Et à l'échelle planétaire, ils sont nombreux, hein, parce que les gens qui très rapidement tombent dans les théories du complot nous disent « Oui, mais ça, c'est la NASA. » Mais attends une minute, là. Le 3I Atlas est observable par n'importe qui sur la planète. Là, c'est pas, la NASA n'a pas le contrôle, le 3I Atlas. Toi, par exemple, tu décides de sortir ce soir, tu as un appareil optique chez toi, un télescope.
Tu peux
observer 3I Atlas. Là. Et au moment où on se parle, il y a des centaines de milliers, sinon de millions de gens à travers la planète qui sont passionnés d'astronomie et qui suivent des yeux, qui suivent du regard Troy Atlas avec leurs appareils optiques. Et c'est le cas, bien sûr, des grands centres d'observation à travers le monde. Donc, il n'y a pas que la NASA actuellement qui a un œil sur Troy Atlas. Il y a des astronomes en Angleterre, en France, au Japon, en Chine, partout dans le monde qui le suivent. Est-ce que la NASA pourrait nous cacher la vérité? Ben, c'est aussi ridicule que de dire est-ce que la NASA pourrait pourrait te cacher que la Lune existe. Hein, parce qu'elle ça, est là dans possible. Le ciel, n'importe ouais. plus la regarder. Tu peux pas la regarder. Bon, c'est un peu absurde là, de réduire ça à la NASA. Mm-hmm. Mais, crois-le ou non, alors que 100% des astronomes et des astrophysiciens au cours des dernières semaines sont arrivés à la conclusion, parce que plus l'objet se rapproche, plus on voyait ses comportements, plus on a vu apparaître derrière lui une espèce de queue cométaire qui était en direction opposée du Soleil, parce que évidemment l'objet, quand il se rapproche du Soleil, il est bombardé par toutes sortes de rayonnements, et à sa surface, certaines composantes vont se vaporiser, et c'est ces substances vaporisées qui forment cette queue cométaire. Donc on a vu apparaître cette queue cométaire. Donc bref, comme le dit l'intervenant de la NASA, ça a l'air d'une comète, ça se promène comme une comète, puis tout, ça a tous les aspects d'une comète. Donc l'ensemble de tous les astrophysiciens à travers le monde ont dit, bon ben voilà, maintenant on sait ce que c'est que 3I Atlas, c'est une comète. Mais crois-le ou non, on a Evilem qui est tout seul dans sa gang. Puis je reviendrai sur le fait que c'est un diplômé d'Harvard, là, tout ça. Là. Il y a un gros problème avec ça, mais ouais. Bref, peu importe. Là, tes gens disent, ah, c'est un gars d'Harvard. Mais parce que c'est un gars d'Harvard, évidemment, c'est ce qu'on appelle un billet d'autorité. Oui. Voilà, c'est un billet d'autorité. Et là, Evilem, tout seul dans sa gang, continue de dire, non, 3I Atlas, c'est un vaisseau spatial extraterrestre. Et la NASA nous cache des choses. Parce que, évidemment, les Américains, eux, voient le monde réduit aux États-Unis. En dehors des États-Unis, le monde n'existe pas. Et là, si Evilem dit qu'il y a un complot, puis que la NASA cache la vérité, bien, crois-le ou non, il y a une représentante républicaine de la Floride, Anna Paulina Luna, qui a été interpellée par ce discours-là de Evilem. Et alors qu'il y a le shutdown aux États-Unis, elle envoie une lettre à la NASA leur demandant de rendre publiques leurs infos et leurs photographies prises depuis la sonde spatiale martienne et de s'expliquer. Mais là, tu t'écoutes, là, c'est de la... Là, il ne manque plus que la petite tuque en papier d'aluminium, là, tu sais. Donc, la NASA, évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais, je veux dire, la NASA dit, bien là, écoutez, là, la photo, d'abord, premièrement, la photo qui a été prise par la sonde Persévérance, et la dernière fois qu'on avait parlé de cette histoire-là, c'est de ça qu'on avait parlé, la sonde, la photographie qui a été prise par Persévérance n'est pas une photo de 3I Atlas. La photographie prise par Persévérance, qui montre cette espèce de cylindre de lumière, ce n'est pas non plus une théorie du complot, c'est simplement l'une des lunes de Mars. En Mars, deux lunes, Phobos et Deimos. Et puis quand on dit des lunes, entendons-nous, là, c'est modeste. Hein? Notre lune, à nous, elle est très grosse, elle est très belle, elle est très ronde. Puis plus les objets sont petits, plus ils ont des formes un peu étranges. Et les lunes de Mars, on les appelle lunes presque par politesse, là, mais oui, ce sont deux gros rochers qui gravitent autour de Mars. Et Phobos, ça a l'air un peu d'une grosse patate déformée un peu, là, mais c'est un gros rocher. Oui. Et donc, Persévérance avait l'objectif de sa caméra, était braqué vers Phobos, et pour photographier des objets, un peu pour ceux qui connaissent un peu la photographie de nuit, la photographie des planètes, etc., ben, il faut un long temps d'exposition hein, pour pouvoir capter ces images-là sur un appareil photo qui avec une sensibilité adaptée. Et dans le cas de Phobos, ben, il était tourné vers le ciel et il avait dans son capteur Phobos et le temps d'exposition était comme, je ne sais pas moi, de 30 secondes ou une minute. Donc l'objet, durant cette minute-là, Mars bouge et l'objet bouge aussi dans le ciel, ce qui a créé cette espèce de traînée de lumière. Donc, c'est un phénomène, cette traînée de lumière, elle est simplement due au fait que le point lumineux dans le ciel, Phobos, s'est déplacé durant le temps d'exposition de la caméra, ce qui a fait cette traînée lumineuse. Mais la NASA dit, bon, ça, rendons-nous, il faut tout de suite l'expliquer, c'est Phobos que l'on voit. C'est vrai que le même jour, une sonde en orbite autour de Mars, une sonde qui est exploitée par l'Agence spatiale européenne pour détecter les gaz autour de Mars dans l'atmosphère martienne. Cette sonde a tourné son regard et a pris une photo de 3I Atlas. Et sur cette photo prise par la sonde orbitale autour de Mars, cette fameuse sonde européenne, hein, ben, elle nous montre une comète. C'est ce qu'elle montre. Mais c'est quand même incroyable que le discours d'un individu alors que tu as à l'échelle de la planète des dizaines de milliers d'astronomes et d'astrophysiciens qui nous disent 3I Atlas est une comète, rien de plus. La voix d'un seul individu a fait réagir un représentant du Congrès américain qui a sombré rapidement dans une théorie du complot pour demander à la NASA de s'exprimer. Bon, bref, c'est probablement en partie à cause de ça que, la NASA a décidé de tenir ce mercredi, donc il y a deux jours, a décidé de tenir ce point de presse pour rendre public ou à tout le moins commenter l'ensemble de toutes les données que l'on a actuellement sur 3I Atlas.
Remettre les pendules à l'heure.
Voilà. Et dès le départ, dans les deux premières minutes du point de presse, l'extrait qu'on a entendu en début d'émission, cet extrait-là apparaît dans les deux premières minutes, les deux, trois premières minutes de l'émission, où immédiatement on a voulu mettre les pendules à l'heure. 3I Atlas n'est rien de plus qu'une comète.
Mais c'est pas la première fois que je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est pas la première fois que ce supposé savant-là d'Harvard émet ce genre d'hypothèse.
Oui, comme je t'ai mentionné, en 2017, il a écrit un livre entier autour de ça. Là. Il ne fait que reprendre ça. Et là, évidemment, Evileb, hier, donc on était au lendemain de ce point de presse de la NASA, donc 24 heures après, il était sur tous les médias pour dénoncer le point de presse de la NASA. Il nous cache des choses. Là, on est un peu dans la théorie du complot, là. On nous dit il est déçu, mais faut-il se rappeler qu'il est tout seul dans sa gang, lui-là. Il n'y a pas personne qui le suit. Il n'y a pas derrière lui 10 000 autres astrophysiciens ou astronomes qui sont en train de le backer. Là. Il est tout seul dans sa gang. C'est important de rappeler ça. À l'échelle planétaire, là, il y a des centaines de milliers d'astronomes, d'astrophysiciens, d'amateurs d'astronomie qui regardent 3I Atlas. Le seul... Faut-il le rappeler? Le seul qui tient ce discours-là, c'est Evileb. Donc, on peut se poser la question, mais comment est-ce possible? Parce que, comme je l'ai mentionné, soyons honnêtes, Evileb est un individu qui a un cursus universitaire très impressionnant. Comment ce type-là peut-il dire toutes ces âneries? Puis c'est amusant parce que moi-même, au lendemain, dans les heures qui ont suivi le point de presse de la NASA, ce mercredi, j'ai fait un commentaire sur les médias sociaux en disant, la NASA vient de trancher, j'espère que ça va clore le débat, alors que je sais très bien que ça ne clore... Le débat ne sera jamais clos. Alors, c'est un peu comme l'assassinat du président Kennedy ou toutes ces histoires-là. T'aurais beau arriver avec toutes les explications possibles, et là, on parle beaucoup actuellement que le président Trump va rendre public le dossier Epstein, il y aura toujours des gens pour dire, même si on a 100% de la documentation qui a été rendue publique, il y aura toujours des gens pour dire, peu importe où on se place, qu'on soit pour, qu'on soit contre, il y aura toujours des gens pour dire, oui, mais il y a peut-être un document quelque part caché qui est bon. Donc, le débat ne sera jamais clos. Mais on peut quand même se poser la question. Donc, moi, j'ai fait le commentaire en disant, la NASA a tranché et j'espère qu'on en a fini avec le ridicule Evileb. Et là, des gens, j'ai eu droit à des courriers orduriers, n'ayons pas peur des mots. Mm-hmm. T'es qui, tout Christian Page, le ridicule Evileb? Évidemment, ceux qui tenaient ce discours-là, c'était des gens qui adhéraient à son discours du vaisseau extraterrestre. Et là, je me suis posé la question, mais comment, dans quel monde les gens peuvent-ils vivre pour croire qu'un diplôme universitaire peut t'empêcher de dire des bêtises? Je ne sais pas pour toi, mais moi, dans le monde où je vis, là, tout le monde, personne n'est à l'abri des bêtises. Moi, j'en ai dit des bêtises. Je suis certain que toi aussi, t'en as dit des bêtises. Absolument. Tout le monde en dit des bêtises. Il y a tous, à un moment donné ou à un autre, où on a défendu une idée, on a défendu une hypothèse, Et après coup, on s'est dit, peut-être que finalement, j'avais tort. Puis on comprend que c'est dur pour l'ego de reconnaître que tu as eu tort. T'sais, moi, j'ai défendu des dossiers, fantômes, ovnis, tout le reste, pendant des années. Et finalement, quand des faits sont venus prouver que j'avais tort, évidemment, je ne me suis pas caché derrière mon diplôme de journaliste en disant « Non, j'ai un diplôme de journaliste, je ne peux pas avoir tort. » Non, j'ai dit des bêtises. Et tout le monde en dit des bêtises. Il n'y a aucun scientifique qui est à l'abri des bêtises. Les humains sont comme ça. On n'est pas à l'abri des bêtises. Et jamais, peu importe le diplôme universitaire que l'on a, jamais ça va nous empêcher de dire des bêtises. On pourrait faire des séries complètes. Moi et toi, là, on pourrait faire des émissions là, pendant encore 20 ans puis on n'aurait pas encore fini de passer au crible l'ensemble des bêtises qui ont pu être dites par des scientifiques qui ont défendu des idées ou des hypothèses tout à fait ridicules. Puis on en a eu, puis on n'a qu'à regarder durant la COVID, tous les scientifiques avaient tous leurs hypothèses, leurs idées, puis chacun, il y en avait une tonne là-dedans qui était complètement dans le champ. Les faits ont démontré qu'ils étaient dans le champ. Bon, c'était quand même des scientifiques, c'était des immunologues, c'était des spécialistes, mais pourtant, ils ont défendu des hypothèses qui étaient tout à fait invraisemblables. Quand on est rendu à Evileb, je le maintiens, je persiste et signe, cette hypothèse, elle est ridicule. Elle est ridicule. Quand, quelque part, là, quand tu es le seul dans ta gang à croire qu'il y a le pas dans parade, là, tu commences à te poser des questions. Quand t'as 100 % de la communauté des astronomes et des astrophysiciens qui te disent « ça, là, c'est une comète » et que toi, t'es tout seul à dire « non », c'est un vaisseau extraterrestre. Là, on tombe, excuse-moi, là, mais là, on tombe dans le ridicule. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, évidemment, on n'est plus dans le domaine de la science. On n'est plus dans le domaine... pour Evileb, on n'est plus dans le domaine de la science. On est dans le domaine de la sociologie. Et en sociologie, le comportement d'Evileb, qui probablement est en partie motivé par l'orgueil, hein? J'ai prétendu ça, je ne veux pas reconnaître que j'ai tort, donc probablement qu'une partie d'orgueil. Mais le deuxième élément, c'est un élément qui est bien identifié par les sociologues, qui s'appelle la dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive, toi, moi, Evileb, peu importe ton diplôme, on peut tous être victimes de la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive, c'est drôle parce que cette découverte sociologique, en fait, une découverte qui est liée au comportement, elle est née justement dans une histoire d'OVNI. Ça nous renvoie en 1956. À ce moment-là, il y a un ouvrage qui est publié aux États-Unis qui s'appelle « When Prophecy Fails ». En français, ça va être traduit sous le titre de « L'échec d'une prophétie ». C'est signé par trois psychologues, il y a Léon Festinger, Henry Reichen puis Stanley Schachter, qui vont s'intéresser à une femme qui s'appelle Dorothy Martin. Et Dorothy Martin, c'est une ménagère qui habite à Oak Park, on est en banlieue de Chicago. Et depuis le début des années 50, elle prétend avoir des contacts extraterrestres avec des habitants d'une planète qui s'appelle la planète Clarion. Et ces habitants de la planète Clarion, évidemment, sont des échanges télépathiques. Ces extraterrestres lui ont annoncé que le monde arriverait à sa fin et que le monde serait détruit par une espèce de déluge à l'échelle planétaire. Il n'y aurait aucun survivant, sauf évidemment elle et une partie de ses ouailles qui seraient avec elle, qui seraient sauvées in extremis grâce à l'arrivée d'une soucoupe volante. Donc, elle annonçait cette destruction pour le 21 décembre 1954. Le jour J est arrivé. Comme Evileb, hein, qui nous annonçait pour le mois d'octobre son invasion extraterrestre. Maintenant, il l'annonce pour la mi-décembre, soit dit en passant. Donc là, le jour J est arrivé. Oui, il a changé la date. Les extraterrestres, ils ont dit qu'ils changeaient de date. Le jour J arrive. Hein, dans le cas de Dorothy Martin, le jour J arrive et il n'y a rien qui se passe. Au lendemain de ça, on peut s'imaginer que les adeptes de Dorothy Martin, ceux qui, un peu comme Evileb, ont bu ses paroles, auraient dû se dire, ben là, il y a eu échec de la prophétie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais non, ils ont préféré croire le discours de Dorothy Martin qui lui a dit, ben finalement, là, les extraterrestres m'ont fait savoir qu'ils avaient changé d'avis. C'était plus raisonnable pour eux et probablement plus confortable de croire à cette nouvelle version plutôt que d'accepter qu'ils avaient été dupés. Et donc, nos trois psychologues qui se sont intéressés à ça, ils ont compris qu'en fait, lorsque une information s'oppose à nos croyances, on est prêt à peu près à faire n'importe quoi pour essayer de la justifier pour ne pas vivre un peu cette dualité. Hein? Le fait et ma croyance, elles s'opposent. Donc, pour ne pas vivre cette dualité, j'essaie de rationaliser l'information pour qu'elle puisse se conformer à ma croyance. Et c'est l'essence même de l'échec de la prophétie. Et c'est également, et c'est là, à ce moment-là, qu'ils ont émis cette notion d'un phénomène qui se passe et on peut tous être victimes de ça, qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est vrai que, après ça, depuis, je pense que c'est l'an dernier, des scientifiques ont critiqué c'est l'an dernier, c'est assez amusant parce qu'on est quand même pratiquement 80 ans après la publication de l'échec d'une prophétie. mais enfin, il y a des gens qui ont dit, ouais, peut-être que les trois psychologues n'ont pas agi fair-fair avec Dorothy Martin, se sont fait à croire qu'ils étaient aussi intéressés par ces messages messianiques, là. Donc, on peut toujours questionner un peu la façon dont les psychologues se sont pris pour avoir l'information et s'infiltrer dans le mouvement, mais ça ne remet pas en question ce phénomène de la dissonance cognitive. Et je pense que dans le cas de Evileb, on est exactement dans cet univers-là. Le type, par orgueil, possiblement, comme je l'ai mentionné, refuse de dire « ben OK, je me suis trompé, puis les autres ont raison ». Mais non, il continue de maintenir cet argument-là. Et puis, évidemment, ceux qui le suivent acceptent ses explications. Et encore une fois, oui, c'est ridicule de croire ça. Et c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est à l'abri d'un discours tout à fait absurde. La littérature est remplie d'hypothèses, de discours, d'informations qui ont été véhiculées dans des milieux scientifiques, qui ont été défendus bec et ongle par des scientifiques et qu'on s'est rendu compte éventuellement que c'était des absurdités totales. Non, un diplôme universitaire n'est pas une garantie, quel que soit notre cursus, n'est pas une garantie qui nous empêche de dire des bêtises. Et Evileb en est la preuve. Je ne sais pas comment se passent ses cours d'astrophysique. Il est peut-être un excellent professeur quand il parle des trous noirs. Je sais qu'il dirige un groupe de recherche sur les trous noirs. Quand il parle des trous noirs ou qu'il parle d'astrophysique, peut-être est-il, pour utiliser l'expression, top-notch. Hein? Mais quand il se met à parler de 3I Atlas, là, on n'est plus dans le domaine de la science. On est dans le domaine de la dissonance cognitive et son discours est rempli de bêtises. Voilà!
Donc voilà, c'est officiellement une comète, dossier clos, même si, ce type continue d'y croire, faut se réveiller.
Libre à lui, libre exactement. À lui. Je relève le défi, hein, Nick. Je te garantis que si à la mi-décembre, l'invasion extraterrestre qui nous annonce ne se produit pas... Ouais. Comme ça s'est pas produit non plus avec... Parce que là, les gens me disent « Ouais, mais il n'y a pas vraiment dit ça. » C'est un peu comme avec « Moi, il n'y a pas vraiment dit ça. » Quand tu écris un livre, puis le titre, c'est « Première preuve de vie intelligente extraterrestre », je pense que c'est assez clair, là. Donc, voilà. Si à la mi-décembre, l'invasion extraterrestre qui est supposée nous frapper ne se produit pas, je relève le pari que Evileb va encore trouver le moyen, comme Dorothy Martin, de dire « Ah, ben, les extraterrestres ont changé d'avis, mais moi, je n'ai pas tort. Hein? » C'est la communauté scientifique qui a tort. Les astronomes, les astrophysiciens, partout à travers le monde, ont tort. Moi, j'ai raison. Et voici pourquoi l'invasion extraterrestre ne s'est pas produite. Et je peux t'assurer qu'ils vont le faire sans que ça ne touche sa popularité auprès des gens qui boivent ses paroles.
Probablement
ça, c'est un peu triste.
Oui, probablement que c'est très long à préparer quand tu es un extraterrestre. Une invasion sur une planète que tu connais pas. Fait que tu dois... Ça se peut qu'il y ait des délais. C'est ça l'affaire.
Probablement. On va attendre un peu. Il y a comme le chaos là, dans le Parti libéral. On va attendre que ça se calme. Parce que là, pour l'instant, c'est eux qui occupent tout l'espace de la publicité et des journaux. Donc, on va attendre. On va avoir notre petit moment c'est de ça. Gloire. Repoussons ça à la mi-septembre.
Les gens parlent de nous. Christian, on va faire une courte pause. Au retour, bon, il y a plusieurs manifestations d'OVNI qui se sont passées au New Jersey, entre autres, cette année, mais il y a des explications qui sont possibles autour de ça. Bref, il y a aussi une vidéo qui circule concernant des apparitions d'OVNI tout près de chez nous à Halifax. C'est assez récent, on va en parler au retour de ceci.
Radio X Files. Execute
program. Avec Christian Page.
Radio X. Capsule.
Radio X.
La poutine aux côtes levées est enfin de retour chez Béné et compagnie après 10 ans d'attente. Tellement savoureuse et généreuse, goûtez-la maintenant avant qu'elle reparte, parce que 10 ans, c'est long. Disponible pour un temps limité. Chez Brandsource IGA, c'est notre super promotion du vendredi fou. On paie l'équivalent des taxes pour vous. À l'achat de deux électroménagers de cuisine ou plus sur les marques réputées Maytag, Whirlpool ou KitchenAid, économisez 150$ de rabais additionnel sur nos buanderies sélectionnées. Brandsource IGA à Laurier Station. File chez Kia Lévis essayer le tout nouveau EV9 100% électrique. Jusqu'à 491 km d'autonomie, un design à couper le souffle et le sourire garanti dès que tu vas appuyer sur Start. Chez Kia Lévis, viens vivre l'expérience EV9 dès aujourd'hui. Les soirées se rafraîchissent et chez EnviroConfort, on vous accompagne avec des solutions complètes, thermopompes, chauffage, accumulateurs de chaleur et même géothermie. Vous chauffez au mazout, changez maintenant et obtenez vos subventions avant avant la date limite. Enviro-Confort, confort, qualité, confiance.
New Look offre un 3 pour 1 sur ces marques.
Pour le vendredi fou, oui.
J'achète une paire, vous me donnez une deuxième paire, plus une paire de lunettes soleil?
Pour le vendredi fou, oui.
Coudonc, si tu as fait des paires?
Non, c'est le 3 pour 1 du vendredi fou chez New Look. Jusqu'au 6 décembre 2025, les conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
Bien Réfrit est reconnu pour son duo imbattable à 9,99. Une moyenne poutine avec une pinte de Bud Light ou 50 pour seulement 9,99. Bien Réfrit a depuis quelques mois le meilleur poulet frit en ville. Trois morceaux de poulet frit maison avec frites pour seulement 12,99. Nos ventes de poulet frit ne cessent d'augmenter. C'est parce qu'il est tout simplement imbattable. Essayez-le avec notre toute nouvelle sauce barbecue maison. Bien Réfrit, goût imbattable, prix imbattable, même pas proche. Québec, Lévis et Sherbrooke.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Vu chez Super C, une coiffeuse professionnelle bien impressionnée par la coupe toute fraîche de son boucher. Parce que chez Super C, nos bouchers coupent la viande en magasin. Puis en plus d'être vraiment bonne, notre viande est à super prix. C'est Super Super C. Détails et conditions au superc.ca.
Saviez-vous que vous pouvez économiser sur votre ordonnance de Wegovy? Téléchargez votre carte rabais à wegovy.ca dès aujourd'hui. Des exclusions peuvent s'appliquer.
Vous n'arrivez plus à payer votre maison. Vous n'avez plus l'énergie de l'entretenir. Chaque jour, vous vous dites « Demain, je vais régler ça. » Et si demain, c'était aujourd'hui? Simplimo achète votre propriété telle qu'elle, sans commission, sans garantie légale. Recevez une offre en 24 heures et votre argent en moins de 30 jours. Une expérience de vente simple, rapide et adaptée à votre situation. Simplimo.ca 418-883-0356. Parce qu'au fond, la simplicité est souvent la meilleure option.
Les parties de Noël arrivent bientôt. Offrez l'effet wow avec Équilibre Traiteur. Que ce soit pour un repas des fêtes chaud ou froid, on a tout pour un événement réussi. Équilibre Traiteur, facile, festif et délicieux. Équilibre-traiteur.ca 418-929-7299.
Chez Paradis Jardins et Accessoires, on passe en mode Noël. Vous voulez des vraies belles décorations originales, exclusives, des décos déjà prêtes à installer? Vous savez où aller. Paradis, paradis.
Ça, c'est le son d'un Toyota RAV4 qui s'assure que vous aurez un siège pour la première remontée le week-end prochain. Et ça, c'est le son d'un RAV4 qui s'assure que vous pourrez toujours rejoindre votre siège au cinéma lors de la prochaine bordée de neige. Deux extrêmes, un seul RAV4 avec traction intégrale de série. C'est l'heure de conduire le vôtre. C'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme le RAV4, également disponible en version hybride branchable. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Prêt à perdre vos feuilles? Elles vous feront rougir comme l'érable à l'automne. Vous aurez envie de vous enlacer dans leurs branches jusqu'à en perdre votre sève. Tous les jours de 9h à 23h, Gentleman Paradise, sur l'avenue Branly. Gentlemanparadise.com.
Allô tout le monde, c'est votre sommeil. Alors, l'équipe Santé Bien-être de Dormez-vous m'a demandé de vous parler de toutes nos petites folies, parce qu'on en fait tous, hein. J'en fais des folies, vous en faites des folies, vous aussi. Dormez seulement un 3-4 heures par nuit, ça c'est fou, ça. Endurer un matelas fini par pure nostalgie, ça c'est très, très fou, ça. Mais manquer le vendredi fou alors que vous êtes tellement fatigué que vous êtes en train de virer fou, là, vous avez vraiment l'air fou.
Pendant le vendredi fou, obtenez 25 % de rabais sur presque tout. Toutes ces folies, ça se passe seulement chez Dormez-vous. Des conditions s'appliquent pour un temps limité.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files en ce vendredi soir. On parle d'OVNI, entre autres. On a classé le dossier 3I Atlas. C'est une comète. Et il n'y a rien d'autre à dire que c'est une comète, Christian.
Oui, absolument. Donc, la prochaine fois qu'on va en parler, c'est à partir de la mi-décembre.
C'est
si
ça.
Là, à ce moment-là, il y a une invasion extraterrestre, on va le dire. Mais s'il n'y en a pas, je pense que le dossier est clos.
Du côté du New Jersey, cette année, on note plusieurs apparitions d'OVNI, entre autres.
Oui, en fait, cette histoire-là du New Jersey, ça avait alimenté énormément la presse à partir de l'automne dernier. Donc, on est à l'automne 2024, principalement, je dirais, au mois de novembre 2024. Il y a toute une série d'observations d'OVNI qui ont été rapportées au New Jersey. Et évidemment, c'est un peu comme de la publicité. C'est à partir du moment où tu te mets à en parler, bien, plus les gens lèvent les yeux au ciel, puis plus ils lèvent les yeux au ciel, bien, ils voient des phénomènes qui, peut-être, étaient assez courants, mais qu'ils n'avaient jamais remarqué. Donc, éventuellement, ça alimente tout ça. Et uniquement là, pour la période de la fin de 2024, novembre-décembre 2024, près de... Il y a 964 observations d'OVNI qui ont été signalées au service d'urgence. Donc, c'est énorme. Là. On parle de pratiquement là, 500 observations par mois là, qui ont été signalées. Bon, évidemment, ça a soulevé un tel intérêt que éventuellement, à ce moment-là, c'est encore l'administration Biden qui était à Washington. Donc, la porte-parole de la Maison-Blanche a été interrogée là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a ces fameuses observations qui se multiplient au New Jersey. Et elle avait répondu, ben, écoutez, on en a informé la garde, les services d'urgence, les services de la sécurité du territoire. Et à ce moment-là, il y avait même un certain John Kirby qui représentait justement la sécurité publique, qui avait répondu qu'à son avis, il devait s'agir de drones, sans élaborer davantage. Et il avait ajouté que pour l'instant, tout le moins, les services d'urgence n'avaient pas détecté la moindre menace. Parce que c'est ça d'abord, le premier rôle, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas une menace directe pour la population. Donc, à ce moment-là, l'histoire s'était alimentée. Il y avait quand même des gens qui s'étaient penchés un peu sur la question. Et on était arrivé rapidement à la conclusion qu'une grande partie des phénomènes qui étaient rapportés étaient des phénomènes naturels ou artificiels, mais connus. C'est-à-dire que les gens, comme je l'ai mentionné, à partir du moment où la presse met à parler de ces observations, les gens lèvent le nez au ciel. Et là, tout d'un coup, ils voient des lumières, puis là, on appelle les services d'urgence. Mais en fait, beaucoup de ces lumières-là étaient simplement la planète. C'est la planète Vénus, ou simplement des avions qui étaient qui survolaient le territoire, là, soit en direction des aéroports de New York ou des aéroports du New Jersey, mais peu importe, mais simplement des avions. Donc les gens confondaient des trucs qui étaient assez banals. Mais c'est vrai qu'il y avait un lot d'observations qui étaient peut-être un peu plus difficiles à expliquer. Et là, voilà qu'on apprend ces derniers jours... On reste quand même discret, mais des représentants d'une firme qui travaille comme sous-traitant pour le département de la Défense ont admis que durant cette période, ils avaient travaillé sur le développement de drones pour le département de la Défense et qu'ils avaient fait des essais de drones au-dessus du New Jersey et reconnaissent qu'un certain nombre d'observations par l'heure, la trajectoire, les endroits où ces phénomènes ont été rapportés correspondent effectivement à des zones d'expérimentation, de tests pour leurs fameux drones. Donc, il est tout à fait raisonnable de croire qu'un certain nombre de ces observations, qui apparemment étaient demeurées quelque part entre guillemets peut-être inexpliquées, ben pourraient finalement trouver une explication à travers cette déclaration de ce sous-traitant qui dit avoir testé des drones au-dessus de ce territoire. Pour l'instant, évidemment, on comprend que comme c'est un sous-traitant du département de la Défense, on reste très discret, on ne nomme pas qui est ce sous-traitant et on ne donne pas non plus de détails sur le drone ou les drones en question, comment ils fonctionnaient, quelle était leur grosseur, leur déplacement et tout le reste. On reste très discret sur les détails techniques et également sur la firme qui est derrière la fabrication de ces drones. Mais disons que l'information a été véhiculée par des représentants de la compagnie et également par le département de la Défense qui reconnaît cette action. Donc, pour ceux qui avaient fantasmé sur cette espèce de vague d'OVNI au-dessus du New Jersey en novembre 2024 et qui s'est poursuivie pendant quand même plusieurs mois, parce que même si les observations ont progressivement diminué en décembre, probablement dû à une lassitude de la presse, parce qu'au début, on comprend, les journaux en parlent abondamment, mais après, bon, quelques semaines, on se dit, bon, on passe à autre chose. Il y a d'autres éléments qui alimentent l'actualité. Puis, faut-il le rappeler, en janvier 2025, on a eu la passation de pouvoir à Washington et l'arrivée de Donald Trump, qui a occupé, ouais, à peu près tout l'espace médiatique. Donc, les ovnis du New Jersey étaient devenus un peu désuets, là. Donc, on a mis ça un peu de côté. Mais on a une explication qui pourrait, somme toute, ici, être valable pour ces observations d'ovnis. Voilà.
Bon, Donc, pas de surprise, pas d'histoire d'extraterrestre.
Non, mais ce qui est intéressant, ben encore une fois, je sais que les gens diront, ouais, mais tu sais, c'est toujours un peu une explication qui est un peu, entre guillemets, rabat-joie, là, tu sais, parce qu'on comprend, on aimerait tous ça avoir l'observation d'OVNI fabuleuse et fantastique. Puis là, finalement, on arrive toujours un peu avec une explication rationnelle qui vient dégonfler un peu la balloune. Mais faut-il le rappeler, hein? On s'intéresse à la question des ovnis de façon moderne. On s'intéresse à la question des ovnis depuis 1947. Et par une première commission d'enquête là, aux États-Unis qui avait été créée, qui s'appelait le projet SIGN. Et bon, et à ce moment-là, et jusqu'à aujourd'hui, en 2025, le constat est un peu le même, que ce soit aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, hein, faut-il le rappeler. Encore une fois, comme je le disais tantôt avec notre discours de la NASA, il n'y a pas que la NASA qui observe l'espace. Hein, les ovnis également ont fait l'objet d'enquêtes menées ailleurs dans le monde, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, que ce soit au Canada. D'ailleurs, en France, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, mais c'est bon de le rappeler. Hein. La France s'est dotée, à partir du milieu des années 70, d'un organisme étatique, donc qui est financé, contrôlé par l'État, qui s'intéresse à la question des ovnis. Et cet organisme, hein, il a son siège au sein du Centre de recherche spatiale français. Là. C'est donc la NASA française. Et ce petit bureau s'appelle le GEPAN, dont l'acronyme veut dire groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc cet organisme, il a été mis en place pour répondre aux questions du public à partir au milieu des années 70. Il existe toujours aujourd'hui. Et que ce soit donc le GEPAN, mais que ce soit d'autres organismes à travers le monde, l'Australie, l'Angleterre, le Canada, toutes ces recherches menées depuis les années 40 sur la question des ovnis arrivent toutes ces recherches-là arrivent toutes à la même conclusion. 95% des observations d'OVNI, malheureusement, s'expliquent par des erreurs d'interprétation. Donc, les gens confondent des phénomènes dans le ciel qui sont naturels ou artificiels. Ça peut aller de l'aurore boréale à la planète Vénus, en passant par des drones, en passant par des avions ou des lanternes chinoises, peu importe. Mais les gens confondent des phénomènes qui sont relativement simples et ils les associent à des ovnis. Donc, et dans le cas, ce qui nous reste, hein, le résiduel, on a à peu près un 5% de résiduel. Ben, ce 5%, ou bien on est en présence de phénomènes que la science n'explique pas. Puis un phénomène que la science n'explique pas n'est pas forcément d'origine extraterrestre. C'est pour ça d'ailleurs que le nouvel acronyme, c'est phénomène aérien non identifié. Donc un phénomène aérien n'est pas forcément extraterrestre parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Et également dans ce 5%, on doit également considérer un nombre d'observations qui sont insuffisamment détaillées et pour lesquelles on ne trouvera jamais d'explication. Je donne souvent un exemple. Si quelqu'un me dit « j'ai vu un OVNI quand? » C'était au mois de juin. Oui, de quelle année? En 1972. Ou quelque part au lac Saint-Jean. Ouais, bon, à partir de là, c'est sûr que son observation ne sera jamais expliquée parce que j'ai pas suffisamment de données pour mener une investigation rigoureuse. Et bien souvent, dans le cas des ovnis, ben, c'est un peu comme ça. Là. Les gens rapportent une observation. Je le sais, j'ai fait partie de groupements ufologiques pendant pratiquement 20 ans. Là. Puis quand j'allais rencontrer des gens ou que des gens me rapportaient des observations d'ovnis, c'était très souvent un peu nébuleux. Là. J'ai vu un ovni quand une dizaine de jours. Une dizaine de jours. Quand un lac, c'était dans la soirée. Là, il devait être quelque part entre 9h et 11h. Ouais, c'est un peu flou. Puis, t'étais où? J'étais quelque part, là, en Mauricie. Ah, oui, OK. Bon. Donc, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec ça. Ça reste un cas insuffisamment détaillé qui est voué à ne jamais être expliqué. Donc, on a un peu ces éléments, ce 5% de résiduel, mais 95% s'explique de manière rationnelle. Puis, je sais que pour certains, c'est un peu comme... C'est un peu rabat-joie de voir ça comme ça, mais c'est quand même la réalité. Et les fameux ovnis du New Jersey, ben malheureusement, avec ce qu'on apprend, qui se sont expliqués, puis avec l'utilisation de ces fameux drones, ben je pense que c'est peut-être l'explication qui doit être retenue. En passant maintenant à notre ovni d'Halifax.
Écoute, je suis allé voir la vidéo qui est virale, puis en commençant, je me suis dit, oh mon Dieu.
Oh mon Dieu. Hein, bon, d'ailleurs, Oui, d'ailleurs, je l'ai dit pour les gens qui nous écoutent, j'ai mis la vidéo, le lien de la vidéo, je l'ai mis sur la page Facebook des Radio X-Files. Donc, les gens peuvent aller sur la page, cliquer, voir avec le lien, voir la vidéo en question. Donc, cette vidéo, tu le dis, elle est devenue virale. Elle a été mise en ligne le 8 novembre dernier sur X, anciennement Twitter. Et on n'a pas beaucoup d'informations. On nous dit, bon, un vidéaste anonyme, hein, apparemment sur un bateau cargo,
okay,
dans le port d'Halifax, a tourné ces images. Et là, donc, on voit des objets lumineux qui sortent des nuages et font un mouvement là, au-dessus de l'eau avant de disparaître. Bon, il y a deux éléments qui ont contribué un peu à cette histoire-là. Elle est devenue virale parce que, bon, il y a une espèce d'engouement qui s'est pris autour de ça. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que, justement, elle est devenue virale. Il y a quelques jours à peine, j'ai vu, ça s'est même rendu en France, parce qu'en France, ils ont une émission de télé web qui s'appelle BTLV, dont l'acronyme veut dire Bob dit toute la vérité. Hein. Le Bob en question, c'est Bob Belenka, c'est l'animateur de l'émission, et qui se consacre essentiellement à l'étrange et le paranormal. Et j'ai certains de mes bons amis français, d'ailleurs, qui participent régulièrement à l'émission. Je lève mon chapeau, d'ailleurs, à Jocelyne Keller, qui fait un excellent travail, qui est un des invités réguliers de l'émission de Bob Belenka. Et donc, même à l'émission de Bob, ils ont présenté la vidéo. Fait que là, je me suis dit, bon, ben là, quand c'est rendu en France, il faut peut-être un peu regarder de quoi il en retourne. Et donc, pour les gens qui sont... Et en même temps, ça nous illustre une problématique, hein, parce que cette vidéo, pour les gens qui sont des habitués de l'utilisation de l'intelligence artificielle, soit pour animer des photographies ou animer des films, ben on voit immédiatement là, les défauts de cette image-là. Hein. Donc, on regarde ça. Un bon enquêteur, immédiatement, aurait posé les premières questions là, avant même de regarder l'image. À partir du moment où t'as pas une date précise, au moment où l'image a été tournée, t'as pas le nom du vidéaste, t'as pas accès à l'image originale. Donc, déjà là, il y a plusieurs éléments qui posent un problème. Le deuxième problème, c'est que, bien sûr, le port d'Halifax, pour y être allé à quelques reprises, Halifax, c'est quand même une grosse ville, Halifax, il y a beaucoup de gens, puis le port est un endroit assis où il y a beaucoup de circulation. Donc, on s'imagine que deux gros ovnis comme ça qui sortent du ciel, qui se promènent au-dessus de la baie, là, je veux dire, tous les journaux de la Nouvelle-Écosse auraient parlé de cette observation, et ça n'est pas le cas. Il n'y a eu aucune autre observation de signaler qui fait référence à ce phénomène-là. Donc, bon, si on regarde, on est attentif au mouvement des objets au-dessus de l'eau, avec le mouvement dans l'eau, parce que les objets semblent créer un remous dans l'eau. On voit qu'ils ne sont pas tout à fait synchro avec le mouvement des objets, et ça, malheureusement, ça traduit l'utilisation de l'intelligence artificielle. Cette image, c'est inévitablement un trucage produit par intelligence artificielle.
Oui, il n'y a pas de doute.
Mais en même temps, ça nous amène à une problématique, hein, et cette problématique, moi-même, je l'ai souvent dressé. Avec le temps, on voit les outils pour falsifier des images qui sont de plus en plus sophistiquées et qui, finalement, posent un sérieux problème aux enquêteurs. Si on reparle, on ne fait que reculer de 20 ou 30 ans dans le passé. Les gens utilisaient, par exemple, des appareils photographiques argentiques. Donc, un enquêteur, et je l'ai fait à maintes reprises, quand des gens me disaient « j'ai pris une photo d'un OVNI », ben je demandais à voir pas que la photo, mais je demandais à voir tout le film au complet. Parce que si c'est un trucage, une petite soucoupe, par exemple, suspendue au bout d'un fil, ben il est peu vraisemblable que le photographe n'ait pris qu'une seule photo. Hein? La photo qu'il me montre, c'est sa meilleure, mais probablement qu'il y a eu plusieurs, 4 ou 5 essais-erreurs avant et peut-être des erreurs après. Il a choisi dans un lot de photographies celle qui était la meilleure. Donc, si tu regardes, si tu as accès à toute la bande du négatif, ben tu peux voir à quel moment la photo a été prise et tu peux voir quelles sont les photos avant et les photos après, et ça te permet de retracer un peu le contexte. Donc, déjà là, c'est un élément qui était très important quand on parlait de photographie. Ensuite arrivent les photographies numériques. Les photographies numériques, évidemment, encore là, si tu es un bon enquêteur, tu ne te contenteras pas de voir que l'image. Tu vas demander à voir l'appareil photo. Parce que la carte mémoire de l'appareil photo contient des données, hein, des métadonnées. Et ces métadonnées te permettent de déterminer à quel moment la photo a été prise. Mais ça te permet de voir quelles étaient les... Si tu recules en arrière, tu vas voir les photos qui ont été prises avant ou après, comme si tu avais accès au négatif.
Oui.
Et si la personne les a effacées, ben la carte des métadonnées va te le mentionner. Hein? Tu vas passer soudainement de la photo 952 à la photo 957. Mais entre la photo 952 et celle la 957 que tu me montres, où sont passées la 953, 954, 955? Tu comprends, la personne l'a effacée. Mais ça, tu peux pas tromper les métadonnées. Les métadonnées vont te le dire qu'il y a des photographies qui ont été effacées. Mais maintenant... Donc, et ça, on pouvait, bon, un bon enquêteur pouvait, à partir de là, essayer de jauger des photographies qui avaient été prises avec un appareil numérique. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle et tout le reste, ça devient excessivement difficile de pouvoir traduire qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui a été falsifié. Et si on parle de l'intelligence artificielle, son application dans le domaine de l'imagerie, pour le public en général, je parle pour monsieur et madame tout le monde, c'est quelque chose qui est apparu seulement il y a 2 ans, au maximum. Hein? Il y a 2 ans, on parlait pas de ça, de pouvoir animer des films par intelligence artificielle pour monsieur et madame tout le monde, sur des logiciels qui étaient domestiques, que tu pouvais avoir à la maison. Bien sûr, on pouvait faire ça dans des grands studios Hollywood, mais maintenant, l'intelligence artificielle, elle est accessible à n'importe qui, soit directement en ligne, soit avec des petits logiciels de retouche qu'on peut installer chez soi. Et donc, ça devient excessivement difficile de pouvoir déterminer le vrai du faux. Et encore là, hein, si on regarde les images du port d'Halifax, on voit, par exemple, que le mouvement de l'eau n'est pas tout à fait synchro avec le déplacement des objets. Mais ça, c'est aujourd'hui. Que sera l'efficacité de l'intelligence artificielle appliquée au domaine du film ou de la photo dans 5 ou 6 ans? Ça va devenir excessivement difficile.
Oui.
Hein? Si aujourd'hui, quand on regarde des images, on est un familier de l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'on a des animations de personnages, là où l'intelligence artificielle a ses petits défauts, hein, son talon d'Achille, c'est par exemple le mouvement des doigts, le mouvement des mains des gens. Mais encore là, moi, je peux te dire qu'en une année, là, j'ai vu une amélioration là, très, très, très soutenue de ça.
Ah, ben c'est complètement fou, Christian. Juste l'application Sora 2 qui est capable de reproduire des personnages, des personnes, de vrais humains là, qui les reproduit. Pas à la perfection, on voit qu'il y a une différence, mais
il faut être très habile, c'est ça. On y est presque. Et là, tu dis, écoute, qu'est-ce que ça sera, ça, dans 3 ou 4 ans? Là, l'amélioration, là, elle est exponentielle de ça. Là. Puis ces gens-là, hein, les animations qu'on fait... avant, rappelle-toi, il y a quelques années, on parlait d'un deepfake. Hein, c'était, on prenait des gens, puis on mettait un visage. Hein, on prenait quelqu'un qui parle, par exemple. Mettons, toi qui parles au micro, j'enlève ton visage, je le remplace par... bon, je vais faire plaisir, là, par le visage de Tom Cruise. les gens disent oh, Tom Cruise est à Radio X, mais bon,
oui.
Mais ça, on ne faisait qu'appliquer le visage et il y avait encore des éléments, bon, le mouvement des yeux, le mouvement des lèvres n'était pas tout à fait synchro. Mais aujourd'hui, on n'a même plus besoin de remplacer ton visage, on te remplace toi au complet. On a réussi à reproduire l'individu assis dans le studio là. Et à ce moment-là, comme tu le mentionnes, on en est presque à la confusion là. On réussit presque à confondre un observateur. Seuls les gens les plus aguerris vont dire « Oh, putain, minute, ça, c'est une image qui est animée. » Mais dans 3 ou 4 ans, ces logiciels vont être améliorés et on ne sera plus en mesure de faire la distinction. Donc, ça devient excessivement problématique et pas seulement au niveau de l'image. On réussit... moi, j'ai vu, par exemple, des montages où il y avait aussi la voix. Donc, on avait comme reproduit un personnage et ce personnage parlait à l'écran et c'était la même voix que le comédien qu'on connaît bien. Là, tu sais, on se dit, ben là, c'est confondant. Donc, ça devient excessivement difficile. Puis je pense que dans l'histoire du port d'Halifax aussi, ce qui a un peu probablement contribué à l'engouement pour cette image-là, c'est quand même que Halifax, on en est un peu à la date anniversaire d'un événement qui a marqué l'histoire de la Nouvelle-Écosse et en fait qui a marqué l'histoire des ovnis au Canada. C'était le 4 octobre 1967 dans un petit port de pêche qui se trouve au sud de la Nouvelle-Écosse qui s'appelle Shag Harbour. Il y a un objet qui a été observé en soirée par une dizaine de personnes. Et cet objet-là s'est crashé littéralement dans l'océan au large de Shag Harbour. Et à ce moment-là, il y avait, bon, parmi les témoins, il y avait des agents de la GRC qui ont été témoins de ça. Et comme ils ont vu l'objet crasher, hein, parce que l'objet semblait au début s'être, il est en vol, il semble, les témoins disent, bon, il s'est posé sur l'eau. Et après être demeuré flottant sur l'eau pendant un certain temps, il a sombré. Et à ce moment-là, la GRC avait demandé rapidement une intervention. On avait d'abord nolisé des bateaux de pêcheurs locaux. On s'était rendu jusque sur le site du crash et on n'avait rien trouvé, aucun débris, pas de cadavre, rien, mais seulement à la surface de l'eau, une espèce de mousse orangée qui avait une odeur de soufre un peu. Et puis, rapidement, dès le lendemain, un bateau de la garde côtière est allé sur place, le surlendemain, des bateaux de l'armée canadienne se sont rendus sur place et ils ont passé au crible la région pendant à peu près une semaine. Il y a même des plongeurs qui ont inspecté les fonds marins et n'ont rien trouvé. Et cette histoire-là n'a jamais été expliquée. Hein. Ce qu'on appelle le crash de Shag Harbour n'a jamais été expliqué. On n'a jamais pu identifier quel était cet objet d'abord observé volant dans le ciel, ensuite se posant sur l'eau et ensuite sombrant dans la baie de Shag Harbour. Et il y a quelques années, d'ailleurs, même la monnaie royale canadienne qui a frappé une série de pièces de monnaie à l'effigie d'histoires d'OVNI qui ont marqué l'histoire du Canada. Ben, ils ont frappé une pièce de monnaie, un peu comme l'OVNI, ils l'avaient fait aussi pour l'OVNI de la place Bonaventure à Montréal. Là, cette fois, ils l'ont fait avec l'OVNI de Shag Harbour, donc une magnifique pièce qui rappelle cet événement-là et qui n'a jamais été expliquée. Donc, je pense que quand la vidéo est sortie, cette fameuse nouvelle vidéo par intelligence artificielle dans le port d'Halifax, je pense que l'engouement ou le souvenir de cet événement de Shag Harbour qui avait fait de la Nouvelle-Écosse un peu un haut lieu d'un événement à caractère OVNI, ben, a certainement contribué à populariser cette histoire, cette vidéo.
Ah, voilà. Alors, c'est tout le temps qu'on a Christian Page ce soir.
Bon, pour... C'est dommage, ben, on avait d'autres histoires, mais bon. Hein, ça sera toujours une autre fois.
C'est toujours ça.
Oui, absolument, toujours. Il faudrait que cette émission-là dure 2 heures.
Oui, pour qu'on puisse...
passer à travers à nous... Pour pouvoir passer à travers nos sujets, là, je voulais te parler aussi de Demi Moore, oui, qui a parlé des extraterrestres récemment dans une émission là, à Stephen Colbert. Elle a évoqué une histoire, un film sur lequel elle travaille en ce moment, mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là.
Absolument. Mais un jour, c'est ça, on aura besoin de 2 heures pour décortiquer est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est un vrai vidéo de
Oui, exactement.
Je souhaite un super beau week-end, puis on se reprend pour les radios.